France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 20 janvier. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, quasi retour à la normale dans les transports après 46 jours de grève contre la réforme des retraites. Mais la colère n'est pas retombée. Nouvelle mobilisation vendredi et des actions ciblées possibles d'ici là dans un contexte de tension et de violence. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
D'une réforme à l'autre, menace de boycott et inquiétude alors que débutent les épreuves anticipées du nouveau bac, la promesse d'une paix en Libye après le sommet de Berlin, des internes à bout de souffle qui appellent à des rassemblements et puis le vent se lève sur l'Open d'Australie à Melbourne.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Choose France, Nicolas. Choose France, c'est l'intitulé du sommet qui aura lieu à Versailles aujourd'hui. 150 investisseurs étrangers sont invités par Emmanuel Macron qui veut vanter l'attractivité de la France. Il s'exprimera pour l'occasion, le nouveau commissaire européen à la politique industrielle, au marché intérieur, au numérique, à la défense, à l'espace, c'est long. Hein. Thierry Breton sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. 8h20, le grand entretien de la matinale avec la garde des Sceaux et ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert.
France Inter.
Un trafic quasi normal ce matin à la SNCF, un service complet sur 11 lignes de métro après une grève d'une durée historique dans les transports contre la réforme des retraites. La circulation des TGV, RER et autres transiliens est donc en très nette amélioration. Valentin Dunat, vous êtes ce matin à la station de métro Charles de Gaulle Étoile où se croisent les lignes 1, 2 et 6. Bonjour Valentin.
Bonjour Agnès.
Alors comment ça se passe ce matin ?
Après 47 jours de grève, les Parisiens, en tout cas ceux qui ont pris le métro ce matin, sont plutôt soulagés, notamment les usagers des lignes 2 et 13 qui ont été très perturbés pendant plus d'un mois. Certains ont dû changer leurs habitudes, se lever au moins une heure plus tôt, donc récupérer une heure de sommeil ce matin, ça rend forcément des mines plus décontractées, sauf que certains se demandent si ce répit est de courte durée, s'il s'agit d'une pause dans la grève ou véritablement la fin de la grève. En tout cas, sur l'ensemble des lignes de métro, le trafic est normal ou quasi normal ce matin. La seule qui est vraiment toujours perturbée, c'est la ligne 13. Un train sur trois ce matin, un sur quatre à partir de cet après-midi. Cette ligne dessert la Seine-Saint-Denis, les gares Saint-Lazare et Montparnasse.
Merci Valentin Dunat dans le métro parisien ce matin pour France Inter avec Lucien Lefebvre pour les moyens techniques. Et des perturbations subsistent également ce matin sur les lignes 3, 4, 5 et 12. Alors en annonçant samedi son intention de suspendre la grève à la RATP, l'UNSA a insisté sur la suspension du mouvement et non pas sa fin. L'idée est de reprendre des forces et de trouver d'autres formes d'action et de se concentrer sur les journées de mobilisation nationale. La prochaine aura lieu vendredi, jour de présentation du texte officiellement en Conseil des ministres. Même son de cloche du côté de la CGT à la SNCF. Mais pour le gouvernement, la tempête est bel et bien passée, même si, Cécilia Harmona, la majorité s'attend à des actions isolées et sans doute spectaculaires.
Serein et confiant, François Patria, le chef de file des sénateurs La République En Marche, est allé passer le week-end chez lui, en Bourgogne. Il pronostique pour les jours à venir quelques coups d'éclat sporadiques.
Il y aura des actions de communication, des actions spectaculaires, j'imagine qu'il y en aura, oui, il y en aura, mais qui marquent la fin un peu convulsive d'un conflit. Le gouvernement y a préparé, nous y sommes aussi. Ceux qui faisaient du retrait purement et simplement du texte, leur objectif. Ceux-là, aujourd'hui, ont compris qu'ils ont perdu la partie. J'ignore pas du tout qu'il y aura une guérilla parlementaire, que le débat parlementaire va être dur, que va être rude, qu'il y aura de l'obstruction.
Une guérilla parlementaire, oui, mais avec quelle munition ? La motion de censure proposée à la gauche par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon a été rejetée mardi dernier par les députés communistes et socialistes. Ils préfèrent garder cette cartouche lorsque le débat aura débuté. Stéphane Troussel, secrétaire national du Parti socialiste, président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
Il y a le travail parlementaire qui va prendre le relais de la contestation sociale par un travail d'amendement, des contre-propositions. Et puis, les Français, s'ils n'ont pas été entendus, eh bien, ils ont aussi leur bulletin de vote. Il y aura donc un troisième tour électoral.
Il en est convaincu, la réforme des retraites va peser dans les isoloirs les 15 et 22 mars.
Des actions isolées dans un contexte de tension accrue, sortie théâtre perturbée vendredi soir pour Emmanuel Macron au Bouffe du Nord, incendie a priori criminel du restaurant La Rotonde, intrusion au siège de la CFDT, et une enquête judiciaire ouverte après la diffusion de vidéos montrant un policier frappant un manifestant blessé déjà au sol. Des faits qui se sont déroulés samedi à Paris en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, marqué lui aussi par des actes de violence et de dégradation. Quatre d'entre eux vont ainsi devoir répondre à partir d'aujourd'hui de l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay. C'était le 1er décembre 2018. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30.
Il est 7h05, Agnès, et c'est une autre réforme qui suscite aujourd'hui inquiétude et colère.
La réforme du bac avec le début des épreuves anticipées pour les 526 000 élèves de première qui s'apprêtent donc à passer des contrôles d'histoire-géo, de langue et de mathématiques pour les filières technologiques. Colère des enseignants qui estiment que la réforme est mal préparée et menace de boycotter les épreuves. Et inquiétude des parents. Faustine Moréane a rencontré Laetitia dont le fils est en première au lycée Corot de Savigny-sur-Orge en région parisienne.
J'appréhendais pas trop. Et là, en fait, c'est le bazar. Si j'ai compris, c'est qu'il y a un pool commun de sujets qui devait être mis à disposition en septembre pour les épreuves communes, justement. Et en fait, ils n'ont eu les sujets qu'en décembre, mi-décembre. Donc, pour s'organiser, c'est un peu la panique au niveau des professeurs parce que ils n'ont pas forcément fait travailler les enfants sur les sujets qui sont proposés. C'est ça, vraiment, le point important, c'est qu'a priori, ils vont manquer de préparation. Donc, quelle est la solution? Je ne sais pas. Est-ce qu'on met 15 à tout le monde en disant ils essuient les plâtres, mais bon là c'est leur avenir hein. Et en tant que maman ça me touche quoi, je me fais du souci, c'est normal.
Et ce sont 3 sessions d'examen qui doivent avoir lieu durant les années de première et terminale. Du souci donc encore, des notes qui compteront pour 30% de la note finale. 60% restent sur l'examen de fin de terminale et 10% sur les notes des bulletins scolaires. Les E3C en 5 questions, c'est sur franceinter.fr. Et puis Cocorico, l'Élysée annonce près de 4 milliards d'euros d'investissement en France de groupes étrangers. Alors que se tient ce soir au château de Versailles le 3e sommet Choose France, l'armateur italo-suisse MSC a ainsi passé une commande de 2 milliards d'euros au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire pour 2 nouveaux paquebots. Cela représente 2400 emplois pendant 3 ans et demi.
7h07, Agnès, l'espoir d'un cessez-le-feu en Libye.
Après le sommet de Berlin hier soir, en présence de toutes les grandes puissances qui se sont prononcées pour un renforcement de l'embargo sur les armes, l'objectif parvenir à un cessez-le-feu durable quand celui acté la semaine dernière à Moscou n'a tenu que quelques heures. Ludovic Piétenu est à Berlin pour France Inter.
Nous avons fait en sorte que tous les participants parlent d'une seule voix, se félicite Angela Merkel lors de la conférence de presse finale qu'elle tient seule aux côtés d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et Rassam Salamé, son représentant spécial pour la Libye. Tous les participants s'engagent à respecter l'embargo sur les livraisons d'armes et à faire en sorte qu'un cessez-le-feu durable s'installe. Ce n'était pas chose gagnée d'avance, tant y compris au sein des Européens, entre Paris et Rome par exemple, les points de vue divergeaient, mais Angela Merkel estime que désormais les Européens, eux aussi, ont parlé d'une seule voix.
Toute la phase préparatoire a montré que les Européens se sont vraiment rapprochés. Nous avons eu un engagement vraiment incroyable. Que les Européens aient pu s'aligner dans un sens ou dans un autre a également contribué à notre succès. C'est pourquoi j'ai une bien meilleure impression sur ce point qu'il y a 1 ou 2 ans.
En étant unie, la diplomatie européenne a su peser face à la Russie et la Turquie qui soutiennent chacun l'un des deux rivaux libyens. Il faudra que cet accord s'installe dans le temps et soit véritablement mis en œuvre. Cet accord de Berlin crée une commission intitulée 5+5 qui oblige tous les participants à vérifier régulièrement le respect de la parole donnée. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Et hier soir, des témoins faisaient état de tirs d'artillerie nourris au sud de Tripoli. En Chine, l'épidémie due à un nouveau virus coronarien s'est étendue à plusieurs villes avec 139 cas supplémentaires signalés au cours du week-end et un 3e décès. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Les confidences du prince Harry hier soir lors d'un dîner de charité à Londres. Le fils cadet de Lady Di a évoqué la grande tristesse d'avoir été obligé de se mettre en retrait de la monarchie britannique, mais qu'il n'avait pas eu d'autre choix pour lui et sa famille.
Retour en France avec ce lundi une nouvelle journée de mobilisation pour les internes.
Leur mouvement lancé depuis plus d'un mois est un peu occulté par celui des hospitaliers, même si les motifs de gronde sont finalement les mêmes. Des horaires trop lourds, des salaires trop bas, des conditions de travail de plus en plus difficiles. Les 27 000 internes en France disent leur découragement et leur souffrance au travail. Véronique Julia a rencontré Sophie, une interne parisienne de 27 ans.
Sophie est à mi-chemin de son internat d'anesthésie-réanimation. Il y a 10 semestres en tout, elle en a déjà effectué 5 dans des grands hôpitaux de la région parisienne. Son constat, c'est qu'en moins de deux ans, la situation s'est dégradée. L'hôpital va de plus en plus mal, ses internes souffrent avec lui.
Nos chefs, comme eux, ils sont en sous-effectif, ils sont fatigués, ils en ont marre. La formation, elle subit. On a plus de responsabilités plus tôt. Comme il n'y a pas d'infirmières, parce qu'elles sont en souffrance aussi, on se retrouve à faire parfois leur travail. Il n'y a pas de brancardier, on doit brancarder. Moi, j'ai déjà lavé le sol plusieurs fois. Alors, non pas que ce soit dégradant ou des choses comme ça, mais il y a un moment où je suis là pour apprendre l'anesthésie-réanimation et je suis pas là pour laver les blocs pour qu'on puisse avancer dans le programme opératoire.
Résultat, des semaines qui peuvent facilement monter à plus de 60 heures et des internes usés, déprimés, mais qui souffrent en silence. Les suicides, on n'en parle pas, les difficultés, on les assume.
C'est toujours difficile pour les internes de montrer leur faiblesse psychologique. C'est pas du tout quelque chose qui est admis. J'ai déjà entendu le burn-out, c'est pour les faibles, des choses comme ça. Et donc en fait, au final, je pense qu'il y a des internes qui se sentent isolés, qui ne savent pas à qui en parler.
Les jeunes chefs semblent un peu plus à l'écoute, admet Sophie, qui sait déjà pour sa part qu'elle ne fera pas sa carrière à l'hôpital public. Elle y croyait, mais ses stages l'en ont dissuadée. Pas assez de moyens, dit-elle, pour bien faire.
Et les internes ont prévu de se rassembler en début d'après-midi, place du Panthéon à Paris. Du foot avec les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de France qui se dérouleront fin janvier. Trois chocs à venir entre clubs de Ligue 1. Nice accueillera Lyon, Marseille recevra Strasbourg et Rennes se rendra à Angers. Le PSG de son côté qui a battu Lorient 1-0 hier se déplacera à Pau. Direction Melbourne à présent. Il y a quelques jours encore on craignait l'annulation pure et simple de l'Open d'Australie en raison des incendies qui ravagent le sud-est du pays provoquant des tempêtes de poussière et une importante pollution. Alors finalement, Fabrice Abgral envoyé spécial de France Inter à Melbourne. Est-ce que ça joue ce matin ?
Alors, ça joue, mais pas complètement. Tous les matchs en extérieur ont été interrompus. Il pleut à Melbourne, le ciel est bien bouché et pas d'éclaircies en vue. En revanche, ça joue sur les trois courts équipés d'un toit, dont le central, où Federer notamment s'est qualifié pour le deuxième tour. Mais quand on parle de Melbourne, on pense évidemment à la qualité de l'air. C'est elle qui avait posé problème la semaine dernière. Eh bien, cette qualité est bonne. Il y a 6 seuils de gravité et là, ça ne dépasse pas le premier échelon. L'indice est de 21. À titre de comparaison, c'est 2 fois moins que ce qui est prévu aujourd'hui à Paris. 21 à Melbourne, c'est donc très loin de la barre des 200 qui, si elle est dépassée, obligera les organisateurs à arrêter les matchs. Mais on n'en est pas encore là. Mais quand on évoque aussi l'Australie, on pense aussi aux incendies qui ravagent le pays depuis 5 mois. Eh bien, les incendies sont désormais sous contrôle, tout simplement parce qu'il pleut considérablement depuis 4 jours sur la côte Est. Les incendies ne font même plus la une de l'actualité. Ce matin, par exemple, les principales chaînes de télévision n'en ont même pas parlé. Pas de titre, pas d'édition spéciale, plus rien non plus dans les quotidiens.
Fabrice Abgral, envoyé spécial de France Inter à Melbourne. Et les premiers résultats de cet Open d'Australie avec un premier Français qualifié, Grégoire Barrère. Qualification également de Serena Williams, Roger Federer et Naomi Osaka.
Merci Agnès Soubirand.